Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
15h58 en France, 17h59 à Doha au Qatar. On est là avec Jérôme Roten.
On est bien. Il fait chaud, il fait beau.
On accueille Eric Dimeco qui va suivre les matchs avec nous. Salut Eric.
Comment ça va les gars?
Salut Eric.
Impeccable. Bah oui, on est content de te retrouver dans Roten sans flamme.
Ouais. Je sais pas s'il y aura des débats enflammés, ça peut autour de mais ce match, mais pourquoi pas.
On va suivre deux rencontres, donc le dénouement du groupe A, et puis on prendra les infos de l'équipe de France, évidemment, comme chaque heure dans Roten sans flamme et dans l'intégrale Coupe du Monde. Dénouement du groupe A, Pays-Bas, Qatar et Équateur-Sénégal. Les coups d'envoi, et on fera un point sur le groupe pour vous rappeler les enjeux. Équateur-Sénégal, c'est avec Valentin Jamin, et Pays-Bas, Qatar avec Arnaud Valadon. Ça vient de partir, Arnaud, bonjour. Arnaud Valadon,
Jérôme,
il est là.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, c'est bon, on peut y aller, Arnaud.
Salut, messieurs. Oui, ça vient de partir dans ce match entre le pays hôte déjà éliminé et les Pays-Bas pas encore qualifiés, même s'il faudra un scénario catastrophe. Deux changements dans la composition de Louis van Gaal. De Roon est titulaire au milieu à la place de Koop Meiners par rapport au match contre l'Équateur et ce match nul un partout. Et Memphis est titulaire. Pourtant, van Gaal avait dit qu'il ferait attention à ne pas tirer sur la corde. Memphis qui revient d'une blessure à l'isque au jambier. Eh bien, il est titulaire dans ce 3-4-3 proposé par le technicien néerlandais.
En cas de victoire, le Qatar serait premier du groupe, en fonction évidemment de l'autre résultat, puisque les Pays-Bas ont le même nombre de points que l'Équateur.
Le Qatar, non, Jean-Louis.
J'ai dit quoi,
le Qatar est éliminé.
Ah, mais le Qatar, ça va être compliqué.
Oui.
Si les Pays-Bas gagnent, les Pays-Bas seront qualifiés, bien sûr. Et s'ils font au moins le même résultat que l'Équateur, le même écart de but, eh bien, les Pays-Bas seront premiers du groupe. Et ça va se jouer entre l'Équateur et le Sénégal, l'autre ticket, si tout cela se confirme. On suit cette rencontre Équateur-Sénégal avec Valentin Jamin. Salut, Valentin.
Salut, messieurs. Salut à toutes et à tous. Une minute de jeu 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal. Une sorte de 16e de finale, hein, si on veut résumer. Le vainqueur ira en huitième en cas de match nul. Ce sera pour l'Équateur match sous haute tension. L'info principale côté équatorien, c'est que Ener Valencia, auteur de 3 réalisations, est titulaire dans ce mondial alors qu'il était sorti face aux Pays-Bas sur civière. Il souffre d'une entorse du genou, mais il préfère quand même jouer. Il insiste et donc il est sur le terrain, alors que les Sénégalais ont fait 3 changements par rapport au match face au Qatar, avec notamment Pape Gueye aligné dans le milieu de terrain. Les Sénégalais veulent retrouver les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. De 2 minutes de jeu, 0-0.
Jérôme, est-ce que tu vois les Sénégalais capables de le faire dans ce match face à l'Équateur par rapport aux deux premières journées?
Écoute, il va falloir qu'ils montrent des meilleures choses. Ouais. Après, j'ai été très déçu de leur premier match. Ils se sont repris sur le deuxième. Donc maintenant, on a l'impression qu'ils montent en puissance quand même. Attention, par contre, cette équipe de l'Équateur, on l'a un petit peu sous-estimée au départ. Et c'est pareil, hein, elle dégage une grande force. On a été bien éclairé par l'avis de Juninho là-dessus sur le match précédent. Donc le match va être tendu. Et si les Équatoriens continuent à mettre cette intensité physique et puis surtout cette qualité technique devant pour faire la différence, il y a quand même 2-3 bons joueurs dans cette équipe.
Mais après, exactement. Est-ce que Valencia diminué pénalise pas trop l'équipe?
Là, je suis assez d'accord avec toi, Eric, parce que le problème, c'est que Valencia a un rôle prépondérant dans cette équipe. On l'a vu, hein, il a beaucoup marqué depuis le début. Mais là, il revient de loin quand même. Hein, donc, je suis pas sûr qu'en effet.
Change ballon rentré pour les Sénégalais avec la frappe à côté. Oh, c'était Idrissa Gueye, me semble-t-il, qui avait pu bénéficier de ce ballon. Le centre côté gauche de Pape Gueye à l'entrée de la surface. Idrissa Gueye sur son pied droit. Il doit cadrer là-dessus, messieurs. Il frappe à côté. Première grosse occasion pour les Sénégalais. 2 minutes de jeu, 0-0, grosse situation. Ah,
il doit marquer.
Pour le Sénégal.
Il doit marquer, il doit au moins cadrer. Là, il déchire complètement sa frappe. Pourtant, il est face au but pratiquement. Le gardien est devant lui. Ah, il doit faire mieux.
Et il y a ce côté du gardien qui est complètement ouvert là.
Il veut la mettre du même côté, mais il doit cadrer. Après, si le gardien fait l'exploit.
Il est peu dépassé par la vitesse du ballon, il est mal placé au moment de la frappe. On voit qu'il n'a pas l'habitude d'être dans cette position.
Exactement. 0-0 sur les deux pelouses, ce qui veut dire que si on en reste là, Pays-Bas-Équateur qualifié pour les huitièmes de finale. Mais évidemment, on est au tout début de ces rencontres. Les Pays-Bas qui sont clairement à l'attaque face au Qatar, Arnaud Valadon.
Ouais, même si on a vu une première frappe signée Afif côté Qatari, derrière la réponse avec cette percée, cet appel dans la surface de réparation de Memphis Depay, repris de manière peu académique par Roro, le défenseur central Qatari d'origine portugaise. Et à noter, Jean-Louis, qu'il y a une égalité parfaite entre les Pays-Bas et l'Équateur pour l'instant, et ça se joue au fair play, au carton jaune, puisque les Pays-Bas n'ont pris qu'un carton jaune contre le Sénégal, c'était De Ligt, et les Équatoriens en ont pris un peu plus. Donc ça aussi, ça pourrait être un paramètre pour départager les deux équipes s'il y avait exactement le même résultat entre les deux formations. Il y a quand même un enjeu, c'est potentiellement éviter l'Angleterre en huitième de finale, le premier du groupe B, puisque le premier du groupe A va jouer le deuxième du groupe B, peut-être l'Iran ou les États-Unis à voir, et sinon le deuxième du groupe A pourrait jouer les Anglais s'il termine premier. Donc il y a quand même un petit peu de calcul. C'est pour ça qu'on a mis quand même la grosse équipe du côté de Louis van Gaal, hein, seulement deux changements. Sinon c'est l'équipe type, avec notamment Cody Gakpo, le meilleur buteur néerlandais sur cette compétition. 0-0 et 5 minutes de jouer.
En parlant d'équipe type, de turnover sur le troisième match, on prendra des nouvelles des Bleus d'ici quelques minutes avec Arthur Perrault, Didier Deschamps qui a clos le dossier Benzema en conférence de presse aujourd'hui à la veille de France-Tunisie. On vous racontera ça tout à l'heure. Mais on repart sur les matchs Équateur-Sénégal, Valentin Jamin.
5 minutes de jeu, 0-0, et donc cette première grosse situation sénégalaise avec la frappe d'Idrissa Gueye qui est passée à côté de la cage équatorienne, en laissant un petit peu plus, je dirais, décomplexé les Sénégalais que l'Équateur en ce début de match, puisque l'Équateur fait pas mal d'erreurs techniques, notamment au milieu de terrain, et ça profite aux hommes d'Aliou Cissé, notamment Pape Gueye. Il suffit que je vous dise ça pour que Kalidou Koulibaly mette un très mauvais ballon à son gardien Edouard Mendy, obligé de dégager en touche. Ces Équatoriens qui nous avaient, j'allais dire, presque un petit peu surpris, hein, t'en parlais Jérôme, face aux Pays-Bas, ils font un partout et 15 tirs à 2 dans ce match pour l'Équateur. Donc équipe qui mettait beaucoup d'intensité, notamment grâce à ses joueurs de côté qui sont de nouveau alignés, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado. Donc à voir si ce n'est pas une des armes que va utiliser cette équipe équatorienne qui, on le rappelle, hein, en cas de nul, donc pourrait se qualifier. Donc pour l'instant c'est un résultat qui leur convient, mais attention, il faut se méfier des flèches sur les côtés côté Équateur. 0-0, 6 minutes de jeu.
Messieurs, il est 16h05 à Paris, 18h06 à Doha au Qatar, où nous sommes installés. Top score dans Rotten sans flamme, spéciale Coupe du Monde. Dénouement du groupe A, Pays-Bas-Qatar, Arnaud Valadon.
La 7ème minute, 0-0.
Équateur-Sénégal, Valentin Jamin.
6 minutes et 12 secondes dans cette partie, 0-0.
Vous intervenez tous les deux dès qu'il se passe quelque chose. Tout à l'heure, ce sera le dénouement du groupe B avec Angleterre, Pays de Galles et Iran, États-Unis à 20h. On est avec Jérôme Rotten, Eric Dimeco. Et on va prendre des nouvelles de l'équipe de France. On accueille Arthur Perrault, l'un de nos suiveurs, nos envoyés spéciaux à Doha autour des Bleus. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Salut Arthur.
Alors Arthur, aujourd'hui conférence de presse de veille de match, la veille de France-Tunisie demain à 18h. Je me mélange dans les horaires. À 18h en France, voilà. Il a été question du dossier Karim Benzema, le fantasme d'un retour de Benzema parce qu'il reprendrait l'entraînement plus tôt que prévu, etc. Didier Deschamps a mis fin à toute cette histoire.
Oui, alors que quelques minutes avant le début de cette conférence de presse, Karim Benzema a atterri à l'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis à La Réunion. D'après un média local, le joueur du Real Madrid devrait passer une semaine sur l'île, installé dans une location privée, des vacances qui, tu l'as dit Jean-Louis, mettent fin aux spéculations sur un possible retour dès jeudi à l'entraînement du Real Madrid de Karim Benzema. Interrogé dans la foulée en conférence de presse, Didier Deschamps a très vite balayé le sujet.
C'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous savez, la situation. Donc je sais pas après qui dit quoi et sur comment. J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez, sa situation et le délai pour qu'il se rétablisse. Donc après, je sais pas où vous voulez aller avec votre question. Moi, j'ai 24 joueurs qui sont là. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là, même si ça m'arrive d'avoir des joueurs qui sont pas là, comme Kimpembe aussi qui est venu, Paul Pogba avec qui j'ai échangé. Je vous laisse ça, si vous voulez, en parler, débattre, imaginer. Je vais pas commenter des trucs qui concernent pas notre quotidien.
Ce que l'on sait aussi, c'est que Karim Benzema n'est pas apte pour le moment. Il poursuit sa convalescence en suivant un protocole de reprise strict 10 jours après avoir été touché au quadriceps de la cuisse gauche. Mais à partir du moment où un communiqué a été fait par la Fédération Française de Football en utilisant le mot forfait qui, messieurs, signifie que Karim Benzema n'est définitivement pas apte.
Il n'y a plus d'histoire. Est-ce qu'il y a eu une histoire, Jérôme, selon toi, à un moment donné, au bras de Benzema?
Il y a tellement de choses qui ont été dites. Il y a des zones d'ombre. ça c'est clair. Il y a des choses qui sont pas faites dans la normalité depuis son départ. Déjà rien que son départ en pleine nuit comme ça, sans prévenir. Plus tout ce qui se dit. Alors il faut creuser parce qu'on a pour l'instant pas forcément des informations. C'est plus des on dit, on analyse, on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Mais je suis assez d'accord avec Didier Deschamps aujourd'hui, c'est pas la question quoi. La question c'est de savoir comment ces 24-25 joueurs de l'équipe de France réagissent, comment ils sont tournés vers un objectif bien précis ensemble. Et pour l'instant ce qu'ils nous donnent, bah, ils nous donnent beaucoup de plaisir et beaucoup de sérénité. Et ça c'est des points d'interrogation qu'on avait avant la compétition et qui ont été levés sur ces deux premiers matchs.
Eric, qu'est-ce que tu penses du sujet Benzema?
Bah, je sais même pas pourquoi. D'ailleurs, on a rebondi en France, on en a fait un sujet. Je veux dire, il faut quand même faire confiance au staff médical de l'équipe de France. Tu prends pas une décision comme celle-là à Bistolenas, comme il dit notre ami Vincent Moscato à vue de nez, quoi. Il y a un staff médical qui a décrété quand même pour qu'un joueur qui vienne à la Coupe du Monde soit obligé de partir en disant bon, mais il est forfait. Il s'en va, c'est que le staff médical a décrété qu'il ne pouvait pas être prêt au haut niveau pendant le mois qui arrivait. Donc moi je veux bien qu'au Real ce soit des génies de la médecine, mais c'est impossible quoi. On a réagi sur un truc qui était impossible, fait qui c'était pas même pas un sujet. Et je vais te dire te dire même plus loin, si imaginons, le Real a une manière de soigner les mecs deux fois plus rapidement que le reste de la Terre. C'est-à-dire que dans 15 jours ou dans 10 jours, il est prêt pour jouer des matchs de haut niveau. Je pose la question à Jérôme et je connais la réponse. Il connaît Didier aussi bien que moi. Tu penses que Didier va réintégrer un joueur avant un quart de finale dans un effectif qui vient de se qualifier, par exemple, après 4 matchs super et tout? Parce que quand tu vas en quart de finale, ça veut dire que tu as fait le job de belle manière, non?
Je suis d'accord avec toi. Écoute, ça, on
je
laisse
ça. Je ne comprends même pas pourquoi on en a, mais c'est les Espagnols hein, qui ont mis le feu. Et nous, on réagit.
Ouais, c'est exactement. Alors, eux ont mis le feu, et comme on a l'impression quand même que dans la gestion de Benzema, il y a des choses pas claires, à l'image de ce qu'avait dit Samir Nasri.
C'est
pour
chose.
Ça. Donc, tout le monde a fait des interprétations, c'est parti un peu dans tous les sens.
Et ça, c'est intéressant, Eric, et j'en parlais avec Jean-Louis en préparant l'émission. Forcément, il y a des choses à creuser. Mais ça sera un bon débat dans quelques temps, à savoir est-ce que Didier Deschamps a réussi l'intégration de Karim Benzema. Et là, écoute, il y aura des choses, il y aura des thèmes abordés qui seront vraiment.
Mais c'est peut-être pas le moment. Effectivement.
Ah non, c'est pas le moment.
En pleine compète comme ça, on le fera un peu plus tard.
Trop tôt.
On laisse Benzema de côté. On remercie.
Que tu le feras pas d'ailleurs.
Moi, je le ferai avec plaisir.
On l'a noté. On l'a noté et qu'on le fera. On n'a pas beaucoup d'idées.
Ah, vous notez pour faire des débats.
Oui, ça, j'ai noté qu'il y aura sûrement un débat Griezmann avec toi à un moment dans l'émission aussi.
Ça n'avait pas sauté aux yeux que vous notiez, que vous travailliez les sujets.
Ah, si, si. Et là, et bien plus encore au Qatar. Hein. Au Qatar, on travaille très tôt.
Pourquoi on.
Mais là. Mais réagis pas, il te chauffe, il raconte n'importe quoi.
Jérôme, quand même. Allez, pas plonger.
On part sur les matchs.
On fait que ça.
Le dénouement du groupe.
Non, mais le débat sur Griezmann, bien sûr que je l'attends avec impatience. J'attends le nouveau mangeage de chapeau de Jérôme Rotel.
Attends, Jérôme.
Mais Griezmann, c'est Maradona. Mais attends, on sait.
Tu sais quoi, il n'y a plus de chapellerie sur Paris, là. Je suis sur Paris, je cherche une chapellerie. Il n'y en a plus une. Il a mangé tous les chapeaux de Paris.
Vous
savez quoi, Griezmann? On va faire ça proprement, mais pas tout de suite. Là, on fait un point sur les matchs, le dénouement du groupe A.
Il est meilleur buteur et meilleur passeur de la Coupe du Monde.
Équateur, Sénégal, Valentin Jamin.
13 minutes de jeu, 0-0 entre Équatoriens et Sénégalais. Les Sénégalais sont bien mieux entrés dans cette partie après la frappe de Gueye. C'est Boulaïdia qui avait été servi dans le dos du défenseur. Petit ballon à droite de la surface. Et sa frappe trop croisée qui passe juste à côté du montant de Galíndez. Mais ils sont bien mieux, les hommes d'Aliou Cissé, dans cette partie. 0-0, 13 minutes de jeu.
Pays-Bas, Qatar, Paladon.
13 minutes de jouer tout pile dans cette partie, 0-0, les Hollandais, les Néerlandais qui poussent notamment sur le côté gauche avec Daley Blind, mais qui n'arrivent pas à trouver la faille. Et attention, les Qataris, ils sont quand même venus là pour jouer. Ils ont eu deux situations dans la surface de réparation sans toutefois inquiéter Andries Noppert, le gardien néerlandais. Bref, ils vont pas balancer le match, les Qataris. Il va falloir aller chercher la qualification et la première place pour les hommes de Louis van Gaal.
Merci messieurs, on vous retrouve dans une seconde. On revient pour la suite de ces rencontres dans Roten sans flamme spécial Coupe du Monde avec Jérôme Roten et Eric Dimeco.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Il est 16h14 en France, 18h14 à Doha au Qatar. C'est Roten sans flamme avec Jérôme, bien sûr, et Eric Dimeco.
Tu t'embrouilles sur les horaires, Jean-Louis, depuis hier, là.
Qu'est-ce que
tu sais
dit,
que le match de l'équipe de France, tu as dit qu'il était à 18h, il est à 16h en France. Hein.
Ah oui, c'est ça. Il est à 18h au Qatar.
Ah oui,
c'est
ça.
Là, c'est vrai. Je sentais
France.
Que j'avais dit une bêtise.
Non, non, mais je sais, mais tu sais qu'Adrien t'a repris sur hier, du coup, je sais pas, tu avais dit 18h18 et 20h28 en France, tu vois, donc carrément, tu es perdu.
C'est compliqué.
C'était la soirée qui était compliquée.
Le problème, c'est que ça fait 10 jours, on devrait s'y habituer, mais toujours pas. Ouais. Donc,
après, si tu vis la nuit et que tu dors le jour, c'est difficile aussi. Hein. Si tu profites de ne pas être à la maison pour faire la fête toute la nuit et tout, et faire croire que tu bosses à ta femme, ça, c'est pas de notre faute.
Malheureusement, non. Je ne suis pas joueur de foot en mise au vert. Je ne suis que journaliste et je travaille.
Ouais.
Voilà, ça n'a rien à voir.
Eric, t'en fais pas.
On le sait, je sais.
Il n'y a rien à savoir. Hein.
Non.
Je ne sais pas ce que tu sais. Bon.
Il s'est fait draguer, Hein.
Voilà, quand tu tiens Playboy, tu ne peux pas résister. Tu n'as pas ta pote.
Il s'est fait draguer, c'est incroyable.
Il n'y a pas un mot de vrai dans votre phrase.
Moi, j'ai ouvert les portes et après, j'ai ouvert les portes. Je peux te dire que là, c'est grand ouvert.
Allez, on repart sur les matchs. Avant quand même de faire votre discussion Griezmann, j'ai pas oublié.
Ah, j'attends, j'ai hâte.
Mais d'abord, un point sur les rencontres, dénouement du groupe.
Diego Armando Griezmann.
Équateur Sénégal, Valentin Jamin.
16 minutes de jeu, 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal. Le ballon dans les pieds d'Abdou Diallo, l'ancien parisien. Il monopolise le ballon, les Sénégalais en blanc cet après-midi face à l'Équateur. Peut-être une situation à venir avec Idrissa Gueye qui a été positionné un petit peu plus haut sur le terrain. Le centre au second poteau d'Idrissa Gueye, ça ne va pas réussir à trouver de coéquipier. Ça va filer en touche, mais on sent que si ça doit basculer d'un côté pour le moment, c'est clairement pour le Sénégal. 0-0 après 17 minutes de jeu dans cette partie décisive, on le rappelle, pour la qualif pour les huitièmes de finale.
Pays Qatar, Arnaud Valadon.
La 17e, 0-0, une seule frappe cadrée côté néerlandais qui commence en 1000 pieds sur le ballon depuis le début de la partie. On est à plus de 76% de possession de balle, mais il n'arrive toujours pas à trouver la clé face à cette équipe du Qatar qui est bien regroupée en défense dans ce stade d'Al Bayt. Le Qatar déjà éliminé et les Pays-Bas pas encore tout à fait assurés de la qualification. On est attentif à Memphis Depay et notamment sa condition physique, lui qui revient d'une blessure à l'ischio-jambier, qui est quand même titularisé par Louis van Gaal, qui avait dit on ne fera pas n'importe quoi, on prendra nos précautions. Il était rentré en cours de match contre l'Équateur et là il aura au moins peut-être une bonne heure de jeu dans les jambes. Memphis Depay qui occupe l'attaque néerlandaise aux côtés de Cody Gakpo, les deux attaquants, et David Klaassen, position numéro 10. 0-0, 18 minutes de jouer.
Alors le dossier Griezmann, alors j'en parle en vous rappelant également qu'à partir de 18h on reprend Roten sans flamme avec les rendez-vous habituels. À 18h30, ce sera faites entrer l'accusé comme toute l'année.
Faut être là.
Et l'accusé du soir, Eric, c'est Jérôme. Ouais. Jérôme accusé d'aller trop loin sur Griezmann. On en parlera tout à l'heure à 18h30, mais on peut déjà faire le débat maintenant, si vous voulez.
Attendons la fin de la Coupe du Monde, laisse Jérôme tranquille.
Ah oui, comme ça on aura tout oublié de ce que t'as dit. Oui, t'as raison. Pas...
Ah non. Moi, je revendique haut et fort.
Alors, qu'est-ce que tu revendiques, Eric? Vas-y, je note.
Que c'est un grand joueur, que Didier Deschamps sait qu'il a de la chance d'avoir ce joueur-là dans son équipe, et que pour lui, c'est un maillon essentiel parce que même quand il est un peu moins bien, il est précieux pour le collectif. Et qu'on ne sera pas compte de la chance qu'on a d'avoir Griezmann dans l'équipe de France.
Et
qui nous a porté à l'Euro 2016, qui nous a porté à la Coupe du Monde 2018 avec d'autres. Qui continue à nous porter.
Ah d'accord.
Et Jérôme, au contraire, toi t'attends toujours plus de Griezmann.
Donc c'est pas Kylian Mbappé qui nous porte en fait. C'est Griezmann.
Une équipe, c'est plusieurs joueurs. Mais ce que fait Griezmann, dans cette équipe-là, c'est important. Et aucun
autre
joueur.
Alors qui nous porte, Eric?
Griezmann porte l'équipe de France avec Mbappé. Oui.
Mbappé à porter, ils sont deux. Voilà.
Et une chaise à porteur, tu poses pas tout seul.
C'était le meilleur avant, Eric.
Pardon.
Tu sais que c'était le meilleur, Jean-Louis, c'était le meilleur avant.
Et pourquoi plus maintenant?
Parce que quand j'entends ça, c'est dingue.
Eric, enfin Griezmann. Ah oui.
Non mais il nous a fait gagner une Ligue des Champions quand même, Eric Dimeco. Donc pas n'importe qui. Pour finir comme ça avec des analyses de bas étage, franchement, à me dire que Griezmann il porte l'équipe de France.
Ouais, non, j'ai dit non, je vais plus loin. J'ai dit que c'est un grand joueur qu'on a la chance de l'avoir.
Ça.
Pourquoi t'es pas d'accord avec Eric là-dessus?
Ah parce que il a tout résumé dans mes critiques en fait. Le fait de dire que Griezmann est un grand joueur, ok, donc on doit être exigeant, intransigeant avec lui. Et moi, je le suis. En effet, depuis le début de la Coupe du Monde, je dis pas qu'on me voit mauvais Antoine Griezmann, quand même. Je sais reconnaître quand le joueur est beaucoup mieux, qu'il est important à l'équipe. Il est important à l'équipe. De là à dire qu'il porte l'équipe de France, moi je pense pas aujourd'hui. Ça c'est clair. Pas encore, du moins. Et j'espère le voir. Et c'est pour ça que je suis très exigeant. Et que quand il fait des matchs où il passe, il les traverse les matchs. Ben oui, je me pose des questions sur son niveau et ça a été très souvent le cas malheureusement. Antoine, c'est la réalité.
Là, sur la Coupe du Monde.
Mais oui, non, mais mes critiques, elles venaient pas sur la Coupe du Monde.
Oui, c'est
critiques,
un vieux débat. Elles viennent d'avant. Pour ceux qui écoutent elles pour la première fois entre Eric et Jérôme, c'est un vieux débat.
Elles viennent d'avant. Et Eric,
là, tu trouves pas qu'il est en train de se réinventer sur cette Coupe du Monde?
Ben, je suis agréablement surpris sur le fait que, en effet, il a retrouvé de la justesse technique, que pour moi, il est important aujourd'hui dans le milieu de terrain à cette équipe de France parce qu'on manque cruellement de créativité par moment. Que lui arrive, je suis pas encore convaincu, arrive sur des moments clés et on l'a vu en fin de match pourquoi on gagne, parce que on était en difficulté contre le Danemark et que il a joué un peu plus haut, qui s'est intercalé dans la ligne d'attaque, et moi ça faisait bien longtemps que je l'avais pas vu faire ça, même des appels en profondeur. Eric, je sais pas si tu as noté, mais c'est vrai que sur le dernier match, il faut reconnaître quand même que c'est un peu nouveau depuis X années de voir Griezmann comme ça faire des appels de balles devant, avoir des actions importantes. Alors contre le Danemark, il en a une belle où il la rate, mais ça peu importe, c'est la réalisation technique. T'es pas obligé de tout réussir. En effet, si t'es un grand joueur, tu dois aussi reconnaître que l'action qu'il a, du moins l'occasion qu'il a, bah, il doit mieux faire.
Oui.
Et après, à côté de ça, à la 86e minute, il délivre cette magnifique passe décisive pour Kylian Mbappé. Donc moi, j'adore le voir comme ça dans cette zone-là. Mais c'est encore trop peu par rapport à son potentiel.
Non, mais c'est Jérôme, c'est très peu, Jérôme. Jean-Louis, c'est vrai que c'est peu, de qualifier à lui tout seul l'équipe de France pour une finale d'Euro contre l'Allemagne. Vous vous souvenez, ce match contre l'Allemagne, on ne touche pas un ballon et que tout seul, c'est vrai que c'est trop peu quand à la Coupe du Monde 2018, quand arrivent les matchs à élimination directe, comme par hasard, il est irréprochable, voire décisif sur une grande majorité des matchs. Mais c'est vrai que Jérôme, lui, préfère les mecs qui flambent contre Dijon, Troyes, Reims, et j'ai beaucoup de respect pour ces équipes-là. Hein. Mais c'est vrai que flamber en demi-finale de championnat d'Europe pour amener ton équipe en finale et être un maillon essentiel offensif dans une victoire en Coupe du Monde, c'est vrai que c'est trop peu. J'avoue. C'est trop peu. J'aurais aimé faire tout comme ça.
On va devoir s'arrêter, Jérôme, parce que pour des raisons indépendantes.
Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on dise que c'est trop peu si j'avais pu faire ça?
Comme ça, il répondra.
Bon, réponds vite fait alors.
Je réponds en fait à Eric en disant.
Tu as une exigence à géométrie variable, je trouve. C'est ça qui est rigolo. Tu as une exigence pour certains que tu n'as pas pour d'autres. Mais c'est
l'exigence, je l'ai parce qu'Antoine Griezmann a failli être Ballon d'Or. Et tu me parles de l'année 2016. D'accord, ça fait 6 ans.
J'ai parlé de 2016, j'ai parlé de 2018. J'étais chaque fois qu'on a besoin d'un négro match.
Mais c'est pas vrai.
Il est toujours là. Voilà.
On va le vérifier
encore pendant cette Coupe du Monde, mais c'est pour ça que ça sert à rien.
Je le souhaite.
En tout cas, pour le moment, ça se vérifie.
Jérôme, Eric, on va s'arrêter.
Il soit bon. Je le souhaite vraiment et de tout mon cœur qu'il retrouve un niveau digne de son niveau qu'il avait il y a six ans. J'ai encore des doutes dans un rôle qui est différent aussi, il faut reconnaître. Mais si on le juge aujourd'hui dans son efficacité, dans les passes offensives, dans le fait de s'intercaler dans la ligne d'attaque, dans ces cas-là, faut le voir comme un joueur offensif et plus comme un milieu de terrain relayeur. Comme Didier Deschamps l'a placé.
On continue dans un instant. On arrête et on fait un point sur les matchs. Le dénouement du groupe A, Équateur-Sénégal, Valentin Jamin.
24 minutes de jeu, 0-0, ballon côté gauche pour Ismaïl Assar, l'ancien Rennais. Peut-être qu'il peut déborder, l'entrée dans la surface de réparation sur son pied droit. La frappe juste à côté de la part d'Ismaïl Assar. Nouvelle belle situation et je crois qu'il y aura corner indiqué par Clément Turpin sur cette occasion après 24 minutes de jeu, 0-0. Et donc nouvelle situation pour les Sénégalais.
Alors on revient pour le corner après un crochet par Pays-Bas Qatar à Arnaud Valadon.
Et le corner qatari à l'instant qui aboutit par une frappe d'Hassan au-dessus. Et attention, bonne séquence des Qataris à l'instant, toujours 0-0 après 24 minutes de jeu. Les Pays-Bas qui ont des difficultés dans cette partie, qui doivent au moins s'assurer la qualification, voire la première place. Et ben c'est pas encore fait.
Ok. Le corner pour le Sénégal.
Frappé par Ismaël Jacobs de son pied gauche, de la droite vers la gauche. Donc ce sera rentrant. Il a levé la main droite. C'est boxé par Galindez, le gardien équatorien. Ça va revenir entrer sur phase de réparation. La frappe de Fab Gueye. C'est ressorti Idrissa Gueye. Maintenant l'ancien parisien peut écarter côté droit vers Jacobs. Tous les grands du Sénégal sont toujours là. Le centre, la tête d'Abdou Diallo en cloche. Capté par Galindez pour l'Équateur. 0-0 entre ces deux formations. 25 minutes de jeu.
Si on en reste là, les Pays-Bas seront qualifiés en premier de groupe, l'Équateur en deuxième, mais il reste encore beaucoup de temps bien sûr. On continue de suivre ces rencontres et le dénouement du groupe A donc avec Jérôme Roten, avec Eric Dimeco dans Roten sans flamme, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Avec donc Jérôme Roten, Eric Dimeco et un but entre les Pays-Bas et le Qatar, Arnaud Valadon.
Et Cody Gakpo a trouvé la clé pour les Pays-Bas qui ouvrent le score après 27 minutes de jeu, 0-0, alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été menaçant, les coéquipiers de Memphis Depay. Jeu à trois magnifiques, Memphis, Klaassen et Cody Gakpo qui est servi face au but, entrée de la surface de réparation. Et l'attaquant du PSV est dans une grande forme, il signe son troisième but dans cette compétition qui est le meilleur buteur tout simplement des Néerlandais. Frappe en l'entrée de la surface de réparation magnifique qui ne laisse aucune chance à Barsam, le gardien du Qatar, et donc 1-0 pour les Pays-Bas.
Voilà, résultat, en tout cas ouverture du score assez logique, donc les Pays-Bas mènent 1-0 face au Qatar. Les Pays-Bas confortent leur première place dans ce groupe, d'autant qu'il y a toujours 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal, Valentin Jamin.
27 minutes de jeu, effectivement 0-0 et une faute là au milieu de terrain obtenue par des Sénégalais, pas récompensée par leur bon début de match. Ils ont déjà frappé 8 fois les hommes d'Aliou Cissé. Pour le moment, Galindez est vigilant, mais ça se rapproche peu à peu pour les Sénégalais. 28 minutes de jeu, 0-0 pour le moment.
Eric, tu veux intervenir sur le but de Gakpo ?
Ah non, pas du tout, non, parce que je suis en train de chercher là. Donc sur Paris, il y a plus de chapellerie, donc ici les Moulineaux, Clamart, Meudon, tout ça non plus. Donc il faut aller jusqu'à Créteil, du coup, j'ai trouvé.
Ouais, ok.
Merci Eric.
Merci Eric.
C'était important, non ?
Mais en revanche, t'as été un peu dur quand même. On n'est pas sur la déchéance d'Eric Dimeco non plus, tu vois, comme consultant.
Bah, là, t'es allé un peu loin. C'est mon avis, c'est à l'image de la carrière d'Antoine Griezmann.
Bah Griezmann, il s'est réinventé pour le coup.
Il était au firmament en 2016, Eric Dimeco au commentaire, et puis depuis, il s'abaisse. Bah après, c'est normal, hein.
Il est
tout jeune, hein.
Alors écoute-moi, Jean-Louis.
Le général de Gaulle disait la vieillesse, c'est un naufrage.
Bah, tu sais quoi, voilà, cette Coupe du Monde va réhabiliter deux personnes en même temps, et ça, c'est beau. Un joueur et un consultant, ça c'est beau. Par contre, ça va en enfoncer un, ça va être dur derrière pour lui.
Non, t'inquiète pas.
J'ai connu Eric avec les cheveux longs, même quand il était consultant, quand il nous a gagné la Coupe d'Europe en tant que joueur.
Il était consultant, il n'avait pas de cheveux longs.
Ah si, ah bon, je ne me souviens pas. C'était horrible. La classe, la belle montre, le beau costume.
Oui, il n'y a plus rien de tout ça.
Aujourd'hui, là, il est dans son canapé en survêtement, dégueulasse. Voilà, c'est ça. Enfin, franchement, les analyses, c'est du bas étage, on dirait.
C'est pas gentil de tailler les vieux monsieur dans leur canapé en survêtement. Hein, c'est pas gentil de parler de Jean-Michel comme ça. Hein, tu es vraiment enfoiré. Hein.
Oh, Jean-Michel, à ce temps-là, il fait autre chose. On l'a appelé, je peux te dire que.
On l'embrasse, Jean-Michel.
Il a un pelu bleu, là.
Il doit nous écouter. Il a pris le mal perdu pour rien, peu cher, Jean-Michel.
Ah non, il écoute pas à ce temps-là, je peux te le dire.
Non. Ah, d'accord. Non.
Allez, on repart sur les matchs, messieurs. Équateur-Sénégal, Valentin Jamin.
29 minutes de jeu, 0-0. Ballon dans les pieds équatoriens dans le camp sénégalais. Peut-être une première situation à construire. Ils ont vraiment, vraiment du mal. Très bien pressés par un milieu de terrain où, je vous le disais, Pap Gueye est aligné. La première titularisation dans cette Coupe du Monde pour le Marseillais, aux côtés d'Idrissa Gueye qui lui est plutôt comme un numéro 10 et qui offensivement se montre intéressant, même s'il a raté une très grosse situation en tout début de match. Beaucoup de ballons passent par lui. Le jeu est arrêté parce qu'on est sur une touche côté droit pour les équatoriens. Une demi-heure de jeu, 0-0. On voit Aliou Cissé évidemment faire de grands gestes, le sélectionneur du Sénégal, pour encourager son équipe à aller de l'avant. 0-0, une demi-heure de jeu.
De leur côté, les Pays-Bas mènent donc 1-0 face au Qatar. On a une des révélations de la Coupe du Monde, Jérôme, avec Cody Gakpo, 3 buts en 3 matchs. L'attaquant du PSV.
Bah, je crois que c'était Griezmann, moi, la révélation.
Il est insupportable.
Bon, je comprends plus. Il a combien ? 3 buts ?
3 buts en 3 matchs.
Ah ouais, il a 3 buts d'avance sur Antoine.
Oui, mais attention. Donc, ouais. Oui, mais il n'a plus le même rôle, Griezmann, non plus. T'attendais pas de but.
La récupération, c'est ça.
Récupération.
J'aime parce qu'il s'enfonce. Au fur et à mesure qu'il parle, il s'enfonce. J'adore.
Bon, j'ai bien compris qu'on pouvait pas. pas parler de.
Il y en a un, Eric, qui va être ridicule de nous deux. Je sais pas lequel encore, mais il y en a un des deux qui.
Moi,
va
je sais.
Je ne demandais pas de parier.
Je sais qu'il est ridicule depuis des mois et des mois, donc.
Allez, Pays-Bas Qatar, Arnaud Valadon.
La 31e, 1-0 pour le Pays-Bas avec ce but de Gakpo qui rejoint Kylian Mbappé et Ener Valencia comme meilleur buteur de la compétition. Lui, l'ailier parfois plus utilisé sur une aile, notamment au PSV, 23 ans. Il a contribué à éliminer Monaco, hein, notamment la course à la Ligue des Champions dans ce troisième tour. Et fait forte impression Cody Gakpo, évidemment, grosse valeur marchande du côté du PSV où il pourrait bien ne pas rester très longtemps. Et c'est vrai qu'il porte offensivement cette équipe des Pays-Bas parce qu'on voit un Memphis qui évidemment tourne autour de lui, mais il a peut-être pas encore récupéré toutes ses sensations. Lui qui revient d'une blessure à l'ischio-jambier, là les Pays-Bas ont vraiment mis la main sur le match. Ils ont eu quelques alertes parce que les Qataris ont poussé, mais globalement ils sont plutôt rassurés, même si on avait une frappe lointaine d'Ismaël Mohamed, le latéral droit qatari, et Noppert, le gardien néerlandais, a eu du mal à s'en saisir puisque c'était un ballon qui lui arrivait dessus pour la capter. Et ben, elle a un petit peu glissé sous son ventre cette balle. C'est peut-être un des points faibles de cette équipe des Pays-Bas, le poste de gardien de but. Il dégage pas forcément une grosse sensation, grosse impression de facilité. Andries Noppert à voir voilà, sur les huitièmes de finale et les matchs coup presque que ça donne. En tout cas, pour l'instant, les Pays-Bas font le travail face au Qatar. 1-0 à 14 minutes de la mi-temps.
Alors, le Sénégal, de son côté, doit gagner face à l'Équateur pour se qualifier en huitième. Pour l'instant, il y a 0-0. Valentin Jamin, les Sénégalais avaient très bien commencé. Ça s'est bien équilibré depuis.
Oui, 32 minutes de jeu. Ce score de 0-0, effectivement. Il y a eu plusieurs belles situations. Idrissa Gueye, Boulaïdia, un centre fuyant de Illiman Ndiaye qui était passé devant tout le monde. Mais on a la sensation, effectivement, que là, les Équatoriens ont remis le pied sur le ballon pour calmer un petit peu la furia sénégalaise parce qu'ils étaient vraiment très bons en ce début de match. On rappelle que le Sénégal a perdu face aux Pays-Bas avant de s'imposer contre le Qatar. Et le Sénégal bien n'a plus vu les huitièmes de finale depuis 2002. Le meilleur parcours de l'Équateur, c'était également des huitièmes de finale, c'était en 2006 pour les Équatoriens. Pour l'instant, ils en prennent le chemin. Et voilà, il y a une longue phase de conservation. On passe côté gauche sur des pistons, des ailiers, des même latéraux. Ils font un petit peu tout dont je vous parlais tout à l'heure. Plus discret quand même que lors des précédents matchs. On va mettre une longue transversale là pour essayer d'aller trouver Preciado, la tête du défenseur central de Chelsea sénégalais, Koulibaly, pour Sabali côté droit, le long dégagement. 33 minutes de jeu, 0-0. Effectivement, le rythme a vraiment baissé dans cette partie.
Eric, ça va faire trois matchs qu'on voit les Pays-Bas. Tu les mets dans quelle catégorie? Outsider, un peu plus haut. Enfin, comment tu les juges depuis le début?
Petit outsider.
Ouais. Il y a pas mal d'équipes qui passent avant encore.
Ah ouais. Ouais. Je suis même déçu d'ailleurs par ce que font les Pays-Bas depuis le début. Ouais. Je suis peu. Je quand je vois la défense centrale qu'ils ont, les quand je vois. Je trouve qu'offensivement, ce pays qui a engendré tellement de génie, je suis un peu déçu.
C'est pas le football du petit Cruyff, là?
Non, ni des générations d'après. Pour le moment, hein, attention, ils peuvent se révéler parce que c'est un grand pays de foot, mais je suis pas convaincu pour le moment. Et je sais que j'aime cette équipe normalement.
Et c'est pour ça. 1-0 pour les Pays-Bas donc face au Qatar, 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal. On repart sur les matchs donc Pays-Bas-Équateur, Arnaud Valadon.
La 34e, 1-0 pour les Pays-Bas face au Qatar. Alors je ne sais pas si vous allez répondre, je regarde un peu dans l'histoire la dernière fois qu'un pays organisateur a fait 0 pointé. Je suis en train de remonter très très loin dans l'histoire des Coupes du Monde. Je pense que ça n'a jamais existé. Je vous confirme ça, cette info, parce que ouais, ça serait quand même une grande première.
De toute façon, Arnaud, il n'y avait jamais de pays organisateur qui avait perdu son premier match. Hein,
déjà ça, alors après...
Donc, du coup, faire 0, c'est forcément inédit.
Et parfois, alors il y avait le petit bémol où le premier match n'était pas forcément le pays organisateur. Avant, c'était le tenant du titre. Surtout en 98, c'était le Brésil qui avait disputé son premier match en France contre l'Écosse, je crois de mémoire. Oui. Et donc oui, il y avait déjà cette nouveauté-là. Et alors ne pas passer. Déjà, c'est rare de voir une équipe, un pays organisateur, ne pas passer la phase de poule. Il y a eu l'Afrique du Sud, mais globalement en 2010, mais globalement, le pays organisateur arrive toujours à s'exfiltrer de la phase de poule. Donc là aussi, il y a un petit peu cet événement, mais faire un zéro pointé, voilà, ça serait historique, même si le Qatar est quand même a gagné la Coupe d'Asie récemment, donc ils n'étaient pas non plus sur l'échelle de leur continent une petite nation. Justement, ils commençaient à avoir des résultats, mais c'est vrai que ça serait un coup. Ils sont quand même à l'attaque là, les Qataris, avec Hassan, le défenseur central qui est monté. Ils veulent quand même aller embêter cette équipe des Pays-Bas qui mène 1-0 avec ce but de Gakpo juste avant la demi-heure de jeu, et on est à 10 minutes de la mi-temps, et donc 1-0 pour les Pays-Bas.
Équateur-Sénégal.
En profondeur avec la sortie du gardien équatorien Galíndez. Il s'était un petit peu raté, ballon en profondeur vers Boulaïdia. Finalement, Galíndez a réussi à capter ce ballon. 36 minutes de jeu, 0-0. On avait encore essayé de s'appuyer sur Boulaïdia qui a marqué son deuxième but en sélection face au Qatar. Seulement, j'ai envie de dire, pour un attaquant, pour un avant-centre, l'ancien joueur de Reims et les Sénégalais aussi, pour revenir un petit peu sur la partie un peu historique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, ils terminent troisième de leur groupe au classement du fair play.
Puisque
par rapport au Japon, pris plus de cartons jaunes à égalité avec le Japon. C'était la Colombie qui avait terminé première, donc ça avait été un vrai coup dur pour la sélection d'Aliou Cissé, donc éliminée de la Coupe du Monde en Russie. Au fair play, là, ils sont encore aux portes de cette qualification pour les huitièmes, et mathématiquement, ça n'est pas bon puisqu'ils font 0-0 face à l'Équateur. Ils viennent d'obtenir un coup franc avec Youssouf Sabali, l'ancien parisien, ancien nantais également, mais il sera loin de la surface équatorienne, légèrement excentré côté droit, donc pour le Sénégal qui, à 10 minutes de la pause, fait 0-0 face à l'Équateur au Khalifa Stadium.
On repart sur Pays-Bas-Qatar, Arnaud.
La 37e, 1-0 pour les Pays-Bas face au Qatar. Rappel, Van Gaal n'a pas fait tourner, il a mis pratiquement son équipe type depuis le début de la compétition. En tout cas, il a reconduit 9 joueurs sur 11 par rapport à cette équipe qui a débuté contre l'Équateur, un partout, sachant qu'entre la victoire contre le Sénégal et contre l'Équateur, il a quand même fait 6 changements. L'ancien entraîneur de Manchester United notamment et du Bayern, venu un petit peu à la rescousse de cette équipe néerlandaise qui veut aller chercher des performances au niveau international, parce que c'est vrai que depuis la finale à la Coupe du Monde 2010, un petit peu compliqué pour les Néerlandais. Ils n'étaient pas là en Russie, hein. Ils font leur retour à la Coupe du Monde, et c'est vrai que cette génération menée par Virgil van Dijk a besoin de repères, même si les anciens critiquent un petit peu en disant que cette équipe ne joue pas trop au football, on s'ennuie, donc pas forcément une atmosphère sereine, si ce n'est Van Gaal qui fait bloc autour de ses joueurs. Ça au moins, les médias néerlandais en parlent. Si eux et les anciens sont assez critiques, au moins ils reconnaissent que le groupe est assez uni autour du coach dont on ne fait plus le palmarès. Voilà, cette équipe des Pays-Bas qui mène 1-0 et qui pourrait se mettre à l'abri, même si on joue un petit peu à la baballe là juste avant la mi-temps. Impression qu'on attend impatiemment la pause du côté des Bataves.
Équateur-Sénégal, toujours le Sénégal à l'attaque.
Attention, Rick Sabali dans la surface de réparation pour les Sénégalais. Il avait été servi côté droit, ça a été contré en dernière minute par le défenseur central équatorien Félix Torres. Ils sont en colère, les Équatoriens, parce qu'il y a un de leurs coéquipiers sur un duel au milieu de terrain qui semblait avoir pris un coup. Il a fini par se replacer, mais du coup il jouait à 10. La touche jouait avec Ismaïla Sarr côté droit pour Idrissa Gueye. Le centre légèrement dévié dans les bras de Galíndez. Ils sont remontés clairement, les Sénégalais, là, pour terminer fort cette première période avec pas mal de joueurs de Ligue 1, hein, la baguette, quand on les cite, Ismaïla Sarr, Idrissa Gueye, il y a Pape Gueye qui est aligné, le joueur de Marseille, Boulaïdia, Ismaël Jacobs qui joue à Monaco, ou Youssouf Sabali. Donc ça fait vraiment une belle colonie de joueurs de Ligue 1 dans cette équipe. 39 minutes de jeu, 0-0, jeu arrêté parce qu'un Équatorien est blessé dans cette partie.
Ah oui ? D'accord, mais alors on surveille ça, ça n'a pas l'air très grave.
Non, c'est
un petit coup.
C'est Moïse Sky qui s'est fait un coup au milieu de terrain.
Ouais, parce qu'il n'y a pas faute sur le coup. Et moi, je trouve les Sénégalais ont des coups à jouer. Hein. Ah oui, il y a une faute, il marche sur le pied, en effet.
C'était Ismaïla Sarr. Il y a
des coups à jouer parce que l'Équateur attend complètement sûr de son match nul.
Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a vraiment des coups dans la surface à jouer. Hein.
Le sélectionneur avait dit, on ne jouera pas le nul, on jouera la victoire. Mais effectivement, pour l'instant, ce n'est pas ce que propose son équipe qui recule au fur et à mesure que ça avance.
On repart rapidement sur Pays-Bas Qatar, Arnaud.
6 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps, 1-0 pour les Pays-Bas. Attention, les Qataris qui sont à l'attaque avec justement Hassan, le défenseur central. Et le mauvais appel, ils ont du mal à faire l'avant-dernière passe, à se montrer vraiment dangereux, même si Nopert a eu 2 arrêts à faire pour 2 frappes cadrées qatariennes. Attention, Qataris, attention, ce long ballon avec Dali Blind, ça passe énormément à gauche du côté des Pays-Bas, avec le couloir justement du vétéran Dali Blind.
On revient dans une seconde pour la fin des premières périodes. 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal. 1-0 pour les Pays-Bas face au Qatar. Pour l'instant, Pays-Bas qualifié premier de groupe. Équateur qualifié deuxième. Mais il peut encore se passer plein de choses. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
16h40 à Paris, 18h40 à Doha au Qatar, où nous sommes installés. J'ai bien vérifié ce coup-ci avec
Eric,
Jérôme Rotten.
Il l'a répété trois fois pendant la pub.
Il dit Méco.
C'est incroyable.
Ah oui, mais j'ai la pression là d'un coup. Ah oui. On suit le dénouement du groupe A, messieurs. Pour l'instant, les Pays-Bas et l'Équateur sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais un but du Sénégal changerait la donne. Équateur-Sénégal, Valentin Jamin.
42 minutes de jeu. Pour l'instant, il n'y a pas de but dans cette partie. 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal. Coup franc pour le Sénégal, joué vite par Abdoujalou vers Ismaïla Sarr, c'est bien joué dans le dos de la défense. Ismaïla Sarr percuté. Est-ce qu'il y aura un pénalty? Il y a un pénalty.
Il y a un pénalty.
Sifflé par Clément Turpin. Avec ce coup franc vraiment vicieux tiré par Abdou Diallo. Il a joué vite. C'était depuis son propre camp côté gauche vers Ismaïla Sarr qui a devancé Incapié, le défenseur central équatorien. Et le ballon était passé quand Incapié a percuté Ismaïla Sarr. Il a beau dire, le joueur du Bayer Leverkusen, qu'il a pris Ismaïla Sarr avec l'épaule. L'ancien Rennais est bien au sol et Clément Turpin signale un pénalty. Peut-être un premier tournant. Il est clairement en retard sur les images qu'on revoit. Incapié, il s'occupe absolument pas du ballon. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
Ah bah, il est en retard, il vient percuter, pénalty.
Il n'y a pas besoin de
mettre un attentat à la carotide pour qu'il y ait pénalty. Hein.
Et ça part d'une action anodine. Je ne sais pas si c'est manque de concentration de la part de l'Équateur, mais c'est vraiment une action à une passe. Hein. Et ce coup franc d'Abdou Diallo, très intelligemment joué dans le dos de la défense, alors que sûrement que les Équatoriens pensaient que le Sénégal allait repartir, pourquoi pas, au sol. On a préféré mettre ce ballon en profondeur. 43 minutes de jeu. On voit la tête vraiment déçue de Pierrot Incapié, le jeune joueur de 20 ans du Bayer Leverkusen. Titulaire hein, en Bundesliga, qui est déçu d'avoir évidemment concédé ce pénalty. Clément Turpin est en train de parler au gardien équatorien Hernan Galíndez. Pour l'instant, nous, on n'a pas d'information avec une éventuelle assistance vidéo, et il semblerait de toute façon.
Après, il y a pénalty là.
Après, c'est Monsieur Turpin, donc il peut pas avoir une surprise, hein, mais.
A priori, ah non, il est Eric, validé. Hein,
c'est pénalty. Eric pour de bon, là, il prend la bonne décision. Hein.
Mais non, mais je rigole. Je parle de la VAR. La VAR peut le déjuger, peut-être. Mais là, c'est pas possible qu'il n'y ait pas pénalty là. C'est ça qui est rigolo, c'est que les mecs vont gueuler. Alors ils savent que ça va être checké. Donc s'il a pas fait faute, voilà.
Ismaïla Sarr a pris le ballon.
Pénalty de la qualif.
Le joueur de Watford, l'ancien Rennais, il vient d'obtenir ce pénalty. Il regarde dans les yeux le gardien équatorien Galíndez. Ce sera pour son pied droit. Les dernières recommandations de la part de Clément Turpin, qui dit à tous les joueurs de ne pas entrer dans la surface avant que le ballon ne soit tiré. Il va également aller voir le gardien équatorien Ismaïla Sarr. A peut-être une première balle de qualif au bout du pied. 48 sélections pour lui, 10 buts avec le Sénégal, et l'opportunité peut-être de marquer en Coupe du Monde. Clément Turpin, les dernières, les ultimes consignes cette fois-ci, le sifflet à la bouche, ce sera pour le pied droit d'Ismaïla Sarr, qui va faire quelques petits pas sur le côté, là, tout petit élan, la frappe d'Ismaïla Sarr, parfaitement tirée sur la gauche de Galíndez, qui plie les genoux, qui ne plonge pas la célébration vers le poteau de corner. Et le Sénégal, pour le moment, passe devant face à l'Équateur. 44e minute de jeu, 1-0, le but d'Ismaïla Sarr sur pénalty.
Mérité.
Ismaïla Sarr qui est en train de délivrer le Sénégal et peut-être d'offrir un huitième de finale à son pays. Si le score en reste là, bien sûr, avec le Sénégal bat l'Équateur. 1-0 dans l'autre match, toujours 1-0 pour les Pays-Bas face au Qatar. Eric, oui.
Mérité par rapport à ce qu'on voit depuis le début du match, avec une équipe de l'Équateur qui est trop en gestion, je trouve. Et peut-être que c'est le meilleur scénario possible pour avoir un match fou en deuxième mi-temps, du coup.
Ouais, je pense qu'ils vont se libérer, les Équatoriens, parce que je suis assez d'accord avec toi, Eric, sur le fait que c'est le Sénégal qui a fait le jeu. Alors, à défaut de se créer des grosses occasions, mais ils en ont eu quand même une ou deux avant. Et très déçus de ce que fait l'Équateur. Offensivement, pour l'instant, ils refusent le jeu. Et tu le payes. Là, ils vont être obligés de s'ouvrir. En deuxième mi-temps, on va avoir une autre équipe de l'Équateur, mais le Sénégal pourra en profiter. En tout cas, je suis bien content pour eux, parce que Sénégal, on disait beaucoup de bonnes choses avant la compétition, même sans Sadio Mané.
Ouais, quand même. Hein.
Et là, bah, pour l'instant, ils sont qualifiés. C'est bien.
Exactement, pour l'instant le Sénégal qualifié avec les Pays-Bas et Qatar, Arnaud Valadon.
Encore 3 minutes à jouer dans le temps additionnel de cette première mi-temps. 1-0 pour les Pays-Bas avec le but de Gakpo à la 26e, son 3e de la compétition. Et le rythme est pas folichon, hein. On est vraiment sur un rythme assez calme. Les Pays-Bas qui font tourner, qui ont toujours le ballon, et les Qataris qui continuent de défendre. On a eu une tentative avec Memphis Depay tout à l'heure, mais pas cadré de la part de l'ancien Lyonnais. Bref, le rythme est assez tranquille. On on va pas s'économiser, on va pas laisser trop de force physique du côté des Pays-Bas, surtout que l'essentiel pour l'instant est là avec cette victoire 1-0. Gakpo qui essaie de combiner, on va passer une nouvelle fois à gauche avec la montée de Dani Blind, avec Gakpo qui essaye de décrocher. On va rejouer derrière encore 2 minutes dans le temps additionnel de cette première mi-temps et 1-0 pour les Pays-Bas.
Le temps additionnel d'Équateur Sénégal, et il est long, Valentin Jamin.
6 minutes de temps additionnel annoncé et il reste 5 minutes donc de temps additionnel puisqu'on joue depuis 54 secondes. 1-0, on le rappelle, pour le Sénégal. Ce but sur penalty d'Ismaïla Sarr, il avait lui-même obtenu, l'ancien Rennais, son tout premier but en Coupe du Monde qui pour l'instant délivre tout un pays, délivre le champion d'Afrique en titre tout simplement, qualifié virtuellement pour les 8e de finale. Et on n'a pas touché les attaquants du côté de l'Équateur. Vraiment, il y a une énorme difficulté à aller toucher les énervés Valencia, les Gonzalo Plata, ballon perdu balle à la part les équatoriens avec Pape Gueye qui va aller déborder côté gauche. Il est au niveau de la surface de réparation, il fait face à Angelo Preciado, le ballon mis en retrait vers Jacobs, le centre du pied gauche vers Boulaye Diaye, c'est difficilement repoussé, ça revient dans la surface avec la frappe tentée d'Iliman Ndiaye, il a un petit peu écrasé, je crois pas qu'elle soit contrée, ça devrait faire 6 mètres pour l'Équateur. Il reste 4 minutes dans le temps additionnel de cette première période. 1-0 pour des Sénégalais qui méritent vraiment pour l'instant d'être devant.
Pays-Bas Qatar, Arnaud.
Encore 1 minute dans le temps additionnel de cette première mi-temps, alors qu'on vient d'apercevoir sur les écrans Edgar Davids, l'ancien milieu de terrain légendaire, avec toujours ses lunettes, hein, puisqu'il a un problème de vision, lunettes fumées, aux côtés de Louis Van Gaal, et qui doit se dire que pour l'instant, les Oranges font le boulot. Je ne sais pas si Jérôme ou Eric déjà croisé Edgar Davids durant leur carrière. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs. Crois, Eric, qu'il y a eu un Monaco-Juve. Tu étais sur le banc vers la fin des années 80.
Mais il y a même, j'ai joué aux Pays-Bas avec l'équipe de France, mais je me demande si, puisque c'est période Overmars et toute la clique là, je vais voir des
tiens. Euro 96, il n'est pas là, Eric ?
Oui, j'y suis, mais je suis sur le.
Non, mais je parle David est là.
J'ai un doute.
Il a fait l'Euro 96, mais il n'était pas dans l'effectif quand la France les joue.
Ah oui.
Ok. Bon, Edgar Davids, c'est une lunette de soleil magnifique, effectivement. Un vrai gaucher, hein. Ça change de.
Et c'est l'habitant.
Je ne suis pas sûr que ce soit des lunettes de soleil. C'est des lunettes.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, oui, il a eu un bloco.
Attention, ça chauffe, messieurs, entre le Sénégal et l'Équateur. Ça chauffe parce qu'il y a eu une petite poussette là de la part de Youssouf Sabali sur un Équatorien. J'ai pas bien vu qui c'était. Je crois que c'est Moses Caicedo qui s'est retrouvé au sol dans ses nerfs Valencia. Mais il y a un début de, on va pas dire de bagarre, mais d'échauffouré. Clément Turpin essaie de calmer tout ça, mais Ener Valencia est au sol. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Le jeu est arrêté, 1-0 pour le Sénégal face à l'Équateur.
Et donc mi-temps entre les Pays-Bas et le Qatar, Arnaud.
Et ce petit avantage pour les Pays-Bas, 1-0, but de Gakpo à la 26e.
À tout à l'heure pour la deuxième période. Il reste un peu moins de 3 minutes dans le temps additionnel d'Équateur-Sénégal. On sera d'ailleurs tout à l'heure dans le 18e arrondissement de Paris où Clément Brossard suit la rencontre avec des supporters sénégalais. Ça a dû être l'explosion au moment de l'ouverture corps d'Ismaïla Sarr. Le Sénégal mène 1-0 face à l'Équateur, Valentin Jamin.
Oui, il reste 3 minutes, un petit peu moins dans ce temps additionnel. On voit les images. En fait, Youssouf Sabali, latéral sénégalais, a fait un croc en jambe à Ener Valencia en dehors des limites du terrain. Il est en train de se faire soigner Valencia. Il se plaint de son genou droit. On rappelle qu'il est une entorse au genou droit, 1-0 hein, pour le Sénégal toujours. Et Clément Turpin est énervé là par cette situation. Il est allé recadrer 2 ou 3 joueurs. Il s'est relevé, Ener Valencia. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel et on va pouvoir jouer un dernier ballon, un long dégagement de la part de Galindez, le gardien équatorien. Ça revient vers Ismaël Jacobs, le défenseur de Monaco, qui lui aussi va obtenir une faute. Fin de match haché dans cette partie. Encore 1 minute et 45 secondes à jouer. Les Sénégalais sont devant 1-0 grâce à un but sur pénalty d'Ismaïla Sarr. But mérité, hein, on le disait messieurs, penalty lui-même obtenu par l'ancien Rennais. Et on voit dans les tribunes les supporters sénégalais évidemment joyeux, puisque pour l'instant ce petit avantage, ce court avantage permet aux champions d'Afrique en titre d'accéder provisoirement aux 8e de finale. Il y aura peut-être dernier long dégagement à venir de la part de la défense sénégalaise après cette faute sur Ismaïla Jacobs. Ça a été joué, duel au milieu de terrain, Pape Gueye va remporter ce duel. Il peut écarter sur la droite vers Iliman Ndiaye qui est très remuant sur son côté droit. Il a en retrait le centre en une touche de Sabali, un petit peu trop profond pour pourquoi pas trouver la tête de Pape Gueye. Ça va arriver complètement côté droit maintenant pour les Équatoriens. Encore 1 minute dans ce temps additionnel et on vraiment rappelle, une équipe intéressante, hein, messieurs.
Si on en reste là, le Sénégal est qualifié en 8e. Ce serait, on le rappelle, hein, la deuxième fois de leur histoire et la deuxième fois, l'autre fois c'était 2002, bien sûr, on s'en souvient tous, hein, la passette de poule où le Sénégal avait éliminé la France. Exactement. Notamment. Mais pour cela, il faut tenir ce score.
Et 40 secondes encore à jouer.
Les Équatoriens sont pas dangereux du tout. Hein,
non, ils sont vraiment inoffensifs. Deux tirs seulement, zéro cadré pour l'Équateur. Inoffensif, effectivement. Et on le dit, on le répète, mais les attaquants ne sont absolument quasiment jamais touchés. Il reste 25 secondes dans le temps additionnel. Le buteur Ismaïla Sarr, là, est au sol. Il se plaint d'un coup qu'il a pris. En fait, il a pris un ballon en extension en levant la jambe droite. Et au même moment, il y a un adversaire qui est venu lui percuter au niveau du genou. Ça a peut-être un petit peu tiré au niveau du haut de la jambe. Il s'est relevé. Il est en train de boiter alors que dans 10 secondes, Clément Turpin devrait siffler la fin de cette première période. Le ballon est sorti en 6 mètres. Long dégagement de la part du gardien équatorien Galíndez. Clément Turpin a le sifflet à la bouche. Et mi-temps au Khalifa Stadium où le Sénégal mène logiquement 1-0 grâce à un but sur pénalty d'Ismaïla Sarr face à l'Équateur.
Votre match sur RMC avec Groupe Verlaine, expert de l'isolation par l'extérieur et du photovoltaïque pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com.
Dans une seconde, on sera donc avec les supporters sénégalais puisque c'est l'événement. Le Sénégal mène 1-0 face à l'Équateur. Le Sénégal virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, tout comme les Pays-Bas qui mènent 1-0 face au Qatar. Mi-temps sur ces deux rencontres, analyse à venir et deuxième période bien sûr dans Rotten sans flamme spéciale Coupe du Monde. À tout de suite.